Nous prions. Nous t'en prions, notre Père. Crée en nous le silence et l'apaisement. Un espace intérieur dégagé. Afin que ta parole y pénètre, y demeure, et nous conduise en humanité, en louange et en présence agissante dans ce monde. Amen. Je vous propose de lire ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné par ce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le sabbat, disait à la foule « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de confusion et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ce petit récit de Luc, c'est une merveille. Un récit extrêmement bien construit et dans lequel l'art de Luc déploie toute sa subtilité. L'évangéliste propose 3 points de vue, desquels découlent 3 questions. Enfin, 3 questions au moins, car d'autres reposent dans les interprétations des détails et de l'ensemble. Mais 3 seulement pour notre méditation de ce jour. Le premier point de vue est celui de Jésus, le deuxième est celui du chef de la synagogue, et le troisième, celui de la femme courbée et redressée. Tout commence avec le regard de Jésus. Au commencement, il y a le regard de Jésus. Jésus voit. Il enseigne dans une synagogue un jour de sabbat, ce qui n'est pas une situation exceptionnelle dans les évangiles. Jésus est reconnu comme un rabbi, un maître, un enseignant des Écritures et de leur interprétation. Et les évangélistes mettent en scène à plusieurs reprises l'accueil ou la contestation de cet enseignement, l'émerveillement ou la colère de ceux qui l'entendent. Donc Jésus enseigne jusqu'au moment où il voit la femme courbée. Et aussitôt, il cesse son enseignement. Il s'adresse à la femme en lui signifiant sa libération, puis il lui impose les mains. La femme se redresse. Jésus n'a pas attendu d'avoir terminé ce qu'il avait à dire dans son enseignement. Il n'attend pas pour annoncer la délivrance et pour imposer les mains. C'est une urgence qui requiert une autre parole qu'une parole d'enseignement. C'est dire que lorsque Jésus parle, il ne perd pas de vue les personnes présentes. Il ne se met pas au centre de sa propre attention d'enseignant. Il reste attentif à celles et ceux qui sont là. Et de son point de vue, cette femme courbée est prioritaire sur toute autre considération. Prioritaire sur son enseignement, prioritaire sur la foule qui l'écoute, prioritaire face à la loi du sabbat. Et c'est la première question posée par le récit. Plus profondément même que la question du sabbat, la question des priorités, qui est celle du sens donné à telle ou telle action, à telle ou telle circonstance, à tel ou tel temps, à telle ou telle personne. Car après tout, la femme n'avait rien demandé pour elle. Personne n'avait rien demandé pour elle. Et puisque Luc précise qu'elle était ainsi courbée depuis 18 ans, d'aucuns pourraient se dire qu'elle pouvait bien attendre encore 5 minutes, ou même une heure, si jamais Jésus avait eu beaucoup de choses à dire. Mais pour Jésus, il est hors de question de laisser la femme courbée, ne serait-ce qu'une minute de plus dans cet état. Il ne la fait pas attendre. La souffrance qu'il voit en elle ne supporte pas de délai. La souffrance qu'il voit ne le laisse jamais tranquille. Pour autant, Jésus ne passe pas tout son temps à guérir tous les malades. Il ne rentre pas dans toutes les maisons pour savoir s'il y a quelqu'un à délivrer. Mais cette femme qui est là, dans la synagogue, devant ses yeux, passe avant tout, bien sûr avant lui-même. Il est pourtant tellement facile de s'habituer à la souffrance, de s'habituer à voir la misère, le malheur. Il est tellement facile de mettre de côté dans son champ de vision les courbés, les abîmés, les fracassés de l'existence qui sont tout proches. D'autant plus facile que les logiques d'une société comme la nôtre y poussent, puisqu'il s'agit entre autres d'une logique de rentabilité, impliquant donc qu'il y ait des laissés pour compte, des exclus de la compétition. Mais Jésus, selon l'Évangile, donne la priorité à l'humain qui a besoin d'aide. Pas question de s'habituer. Beaucoup d'œuvres et mouvements issus de l'action des églises donnent réalité à cette priorité. Par exemple, la CIMADE ou le CASP, l'Armée du Salut ou le mouvement du christianisme social et bien d'autres encore. Autant d'actions et de protestations qui refusent l'indifférence ou la résignation. Il est tellement facile de ne plus voir, sans même s'en rendre compte, d'accepter que le malheur et la souffrance soient installés comme si c'était normal, comme si c'était une fatalité. Il n'y a pas dans l'évangile de Luc de visée de culpabilisation des lecteurs. Mais il pose la question de la priorité. Et c'est une question pour les consciences. C'est une question comme un rappel de ce que l'amour du prochain est le second commandement semblable au premier de l'amour de Dieu. Et tout cela n'empêche pas Jésus de mettre les points sur les i, en répondant fermement, voire vertement, au chef de la synagogue. Le deuxième point de vue, celui de la loi, celui de l'ordre, celui du pouvoir. Le chef de la synagogue n'entre pas en controverse directe avec Jésus, vous l'aurez noté. Il ne lui dit pas clairement, comme d'autres le font dans d'autres récits des évangiles, il n'est pas permis de guérir le jour du sabbat. Ce chef de synagogue-là veut faire preuve de subtilité. Il s'adresse à la foule en rappelant le règlement et en généralisant la situation. Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non celui du sabbat, le 7e. Ou comment porter une accusation sans mentionner ce que l'on accuse? Et encore, comment rendre à nouveau invisible celle qui a été redressée? Car sans le dire, le chef de la synagogue s'en prend à la femme pour s'en prendre à Jésus. C'est la femme courbée, la fautive. La femme courbée est coupable d'avoir provoqué ce scandale. Si elle n'était pas venue à la synagogue ce jour-là, rien ne se serait passé. Jésus aurait terminé son enseignement, on aurait pu discuter avec lui après éventuellement, et tout se serait gentiment terminé. Mais la femme est venue, et sa présence a poussé Jésus à agir le jour du sabbat. C'est tellement facile de désigner un coupable, peut-être encore plus une coupable, redressée mais fautive, délivrée mais condamnable. De quoi ployer à nouveau sous ce regard-là, lancé de ce point de vue-là, de quoi être écrasé encore par ce pouvoir du chef de la synagogue, par son jugement même déclaré de biais indirectement, de quoi être courbé par son mépris d'homme sûr de sa supériorité. Alors comment ne pas penser à ces femmes courbées sous le poids de lois, de règlements, de jugements, de condamnations et qui ne supportent plus de ne pas être considérées comme des êtres humains, ces femmes iraniennes, ces femmes afghanes et d'autres femmes ailleurs et dans ce pays même, des femmes qui veulent pouvoir se redresser en vis-à-vis d'humanité pour tous. Courber les femmes ne rend pas les hommes plus grands. Invisibiliser les femmes ne rend pas les hommes forts. Et réciproquement. Du point de vue du chef de la synagogue, la femme courbée, son malheur de 18 ans, ça n'est pas prioritaire. Il ne veut pas d'exception pour elle. Il la signe à l'écart et reste courbée. La question là, c'est celle du regard porté sur l'autre, ce regard de supériorité qui finit par ne plus vouloir voir celles et ceux qu'on juge inférieurs, mineurs. Mais Jésus non plus ne veut pas d'exception pour cette femme courbée. Jésus rétablit l'égalité. Cette femme est fille d'Abraham. Cette façon de dire affirme que la fille d'Abraham vaut autant qu'un fils d'Abraham. Et pour en témoigner, Jésus a pour elle, la femme courbée, encore plus d'attention qu'il n'en avait eu un peu avant pour un homme à la main paralysée qu'il avait précédemment guéri également dans une synagogue, également un jour de sabbat. Fille d'Abraham, c'est-à-dire fille d'humain, et fille de Dieu. Dieu qui n'est pas partial, ainsi que Luc le fait confesser par l'apôtre Pierre dans le livre des Actes. Dieu n'est partial ni vis-à-vis des païens, ni vis-à-vis des femmes. Et le troisième point de vue, justement, est celui de la femme. Tant qu'elle est courbée, elle ne voit pas grand-chose. Seulement le sol, repliée comme elle est. Elle ne peut regarder personne en face. Elle n'est le vis-à-vis de personne. Et Luc insiste, elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Cette courbure du corps de la femme parle de tous ceux et celles qui ne peuvent se tenir droit dans leur humanité, celles et ceux dont l'humanité ne peut se déployer parce qu'ils sont liés. Dans le récit de Luc, la femme n'est pas tellement malade. Elle est possédée par un esprit qui la contraint, qui la rétrécit, qui l'empêche de se sentir à l'égal de qui que ce soit. Et cela depuis 18 ans. Et 18 ans, ce n'est pas une durée choisie au hasard par Luc. C'est un nombre signifiant l'asservissement dans la Bible. Dans le livre des Juges, par exemple, c'est la durée pendant laquelle les enfants d'Israël sont soumis à la domination cruelle du roi de Moab. Et juste avant ce récit, dans le même chapitre 13 de l'évangile de Luc, Jésus évoque l'effondrement d'une tour, la tour de Siloé, qui a causé la mort de 18 personnes, qui, affirme-t-il, n'étaient pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem pour mourir de cette manière. Mais croire que ces 18 personnes sont mortes écrasées par la tour de Siloé parce qu'elles étaient coupables, cela contribue à maintenir les gens liés, ligotés, dans la peur de mourir et avant cela, dans la peur de vivre. 18 ans courbés, 18 ans liés, écrasés, dans l'impossibilité de faire face à qui que ce soit, même pas à sa propre vie. La mention que de l'esprit qui la courbe ou de Satan qui la lie indique qu'il s'agit d'une atteinte à l'humanité, d'une souffrance qui altère l'existence en tant que l'existence pour toutes les Écritures est existence en relation avec autrui. Ce qui asservit cette femme, la ligote, l'entrave, la plie, correspond à tout ce qui peut réduire l'humanité d'un humain et réduire l'humain en esclavage sous une oppression quelle qu'elle soit, par une humiliation quelle qu'elle soit. Mais par la parole de Jésus, et déjà avant la parole, par le regard de Jésus qui la voit, cette femme devient un sujet. Non plus un objet auquel on peut ne pas prêter attention, non pas non plus l'objet d'un discours, de paroles tombant sur son dos courbé ou même sur son dos redressé comme cherche encore à le faire le chef de la synagogue. Jésus fait d'elle le sujet d'une rencontre dans laquelle, par laquelle, il la délivre de ce qui pèse sur elle, en particulier la marginalisation, la mise à l'écart par ceux qui sont plus intéressés par leur propre personne, leur influence et l'ordre qu'ils servent et imposent, même quand c'est un ordre religieux. Or, dit Jésus, cette femme est libre. Mais elle n'en avait pas conscience. Elle l'ignorait. Et c'est ce que Jésus voit et qu'il annonce avant même de lui imposer les mains. Elle est libre parce qu'elle est une fille d'Abraham, fille d'humain, fille de Dieu. La parole et le geste de Jésus la rendent à cette dignité qui était la sienne, mais que personne ne reconnaissait. Et redressée, elle se met à glorifier Dieu. Elle devient interlocutrice de Dieu directement. Irénée, un père de l'Église, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, est l'auteur d'une phrase célèbre. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. » Et c'est exactement la même chose pour les femmes. Vivantes et debout, redressées, elles sont la gloire de Dieu, toutes ces femmes, ici et ailleurs. Il n'y a pas de femme objet, ni d'homme objet autrement que dans des regards d'hommes ou de femmes assoiffés de pouvoir sur autrui et qui usent de discours religieux, techniques, professionnels, théoriques et souvent atrocement sommaires. Et la question qui se pose est celle du jour de la reconnaissance de cette liberté et de cette dignité. Pour le chef de la synagogue, le jour du sabbat n'est pas le bon jour pour cela. Alors que pour Jésus, c'est le jour pour le faire. Simplement parce que c'est le jour où cette femme était là et où il l'a vue. Le chef de la synagogue pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Et nous savons bien que cette conviction entraîne que ce n'est jamais le temps pour certaines choses. On verra plus tard, quand les conditions se prêteront mieux. Ce n'est jamais le temps pour certaines choses, et particulièrement pour reconnaître, non en théorie, mais en pratique, la dignité et la liberté de telle ou telle personne, de tel ou tel groupe de personnes. Pour Jésus, le sabbat est un bon jour pour délivrer la femme courbée. Et justement parce que le jour du sabbat est celui de la célébration de la délivrance d'Israël par l'Éternel, selon le livre du Deutéronome. Un très bon jour pour délivrer une femme courbée. Et c'est manquer le sens profond et véritable du sabbat de prétendre qu'il ne faut pas guérir, relever, redresser, libérer un être humain ce jour-là. Mais plus encore, pour Jésus, la loi permet de guérir, de redresser, de libérer, de rendre sa dignité à n'importe quelle femme, à n'importe quel homme, n'importe quel jour. Selon l'Évangile, la liberté et la dignité n'attendent pas. Pour toutes les femmes et pour tous les hommes, c'est pour aujourd'hui. Amen.